Arrivederci, Joey! Joey Dessin, bip, bip. C'est vraiment remarquable. Depuis un an, carrément, ça a doublé les consultations pour des désordres alimentaires, et pas n'importe lesquels, des désordres alimentaires, à l'hôpital Sainte-Justine, entre autres. Et puis, c'est dans un article de la presse, il y a à peu près une semaine, on parlait de ça, que finalement, ces désordres alimentaires sont une véritable bombe à retardement. À retardement, parce qu'effectivement, on n'a pas fini de subir et de voir les conséquences de la pandémie. Alors, on parle, entre autres, de deux types de cas. Un adolescent qui, lui, souffre d'obésité sévère, qui avait réussi à perdre un petit peu de kilos avant la pandémie, mais là, tout à coup, c'est carrément jeté dans la bouffe. Et d'autres qui ont fait l'inverse, qui ont décidé de perdre du poids, de s'entraîner, mais au-delà de ce qui est permis, ils ont perdu beaucoup de kilos. Et là, donc, on a de plus en plus de jeunes patients qui souffrent de désordres alimentaires. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive exactement? Et quand on parle de bombe à retardement, on parle de quoi exactement? Bon, on va en parler avec une spécialiste des questions du trouble alimentaire au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Madame Isabelle Thibault est avec nous. Madame Thibault, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que, effectivement, là, on parlait de l'hôpital Sainte-Justine, mais est-ce que c'est ce qu'on constate dans l'ensemble du Québec, de plus en plus de jeunes souffrent de problèmes de désordre alimentaire?
Mais en fait, oui, c'est ce qu'on observe à l'échelle du Québec, je vous dirais à l'échelle internationale de même. Puis, peut-être relativiser, là, oui, de plus en plus de jeunes, mais on voit un impact direct de la COVID, donc de la situation de la pandémie sur l'augmentation des taux de troubles des conduites alimentaires. Donc, c'est vraiment circonstanciel, contextuel, et on peut l'associer aux effets des mesures sociosanitaires, là.
Mais Isabelle Thibault, est-ce que finalement c'était des gens qui présentaient déjà un potentiel de désordre alimentaire? Parce que je pense qu'à peu près tout le monde a décidé de manger pas mal des bonbons puis de se payer de la nourriture parce qu'on pouvait rien faire d'autre. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était latent, que c'est une population qui était déjà peut-être fragilisée sur ce plan-là?
Mais en fait, c'est très intéressant votre question. Il y a deux aspects dans ce que vous venez de mentionner. Ce que vous avez dit en premier dans votre question, le réflexe que bon, mais tout le monde a mangé plus en
Ouais.
période de pandémie, tout ça. Effectivement, puis c'est pas à cause de ça qu'un trouble des conduites alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie va se développer, là. D'accord? Donc, oui, l'anorexie, la boulimie, c'est lié à la perception de son image, à un désir de perdre du poids, de contrôler son apparence corporelle. Mais dans les faits, c'est très peu lié à l'alimentation en tant que telle. C'est-à-dire que l'alimentation en tant que telle va devenir le symptôme de certaines vulnérabilités qui sont présentes, et j'ai beaucoup aimé, vous avez dit ce que c'était latent.
Oui.
Qu'on comprend dans l'augmentation des taux des troubles des conduites alimentaires en lien avec la pandémie, c'est que toutes les mesures sociosanitaires ont entraîné la diminution de certains facteurs de protection et l'augmentation de certains facteurs de risque. Donc, ce sont, ben, pour la plupart, oui, des jeunes qui étaient plus vulnérables, mais probablement des jeunes aussi qui n'auraient jamais nécessairement développé de troubles des conduites alimentaires, là. Donc, c'est vraiment le fait que, en étant isolé, en n'allant plus à l'école, en ayant moins de contact avec les amis, c'est ça qui fait en sorte qu'on devient plus préoccupé, qu'on s'épanouit moins, qu'on est plus refermé sur soi, replié sur soi. Et là, ben, on peut commencer à se centrer sur des choses qui, selon notre apparence, font défaut. Là, peut-être que j'ai mangé un petit peu plus pendant la pandémie avec mes parents, tout ça. Puis, ah, ben, je me mets à moins aimer mon corps. Puis là, je vais perdre un peu de poids. Puis, comme vous l'avez dit en introduction, là, ça va glisser vers le trouble des conduites alimentaires. Mais s'il n'y avait pas des vulnérabilités présentes avant tout ça et l'absence des facteurs de protection qui sont là habituellement, on n'aurait pas de troubles des conduites alimentaires.
Ah, carrément, là, c'est vraiment là, le résultat de ce confinement, puis aussi du fait qu'il n'y avait aucune option de toute façon, là.
Mais oui, c'est ça. Puis c'est vraiment que c'était, comme vous l'avez dit, là, probablement des jeunes qui sont plus vulnérables à la base. Mais là, on se retrouve, tu sais, à l'adolescence puis à l'enfance, les amis, c'est tellement primordial. Et là, on se retrouve isolés pour toutes sortes de raisons qui, sur le plan de la santé de nos populations puis du contrôle épidémiologique de la maladie, on n'avait probablement pas le choix de passer par là, là. Donc, l'idée, ce n'est pas de remettre en question les mesures sociosanitaires, c'est plus de constater, pardon, que ces mesures-là ont affecté tout le monde, dont nos jeunes. C'est bien documenté là, dans les écrits scientifiques. On en a beaucoup entendu parler dans les médias et on a vu des taux d'augmentation importants des problématiques anxieuses, des problématiques dépressives, mais aussi des troubles des conduites alimentaires chez nos jeunes.
Est-ce qu'on a observé la même chose chez les adultes? Est-ce que on dit que les adultes sont moins sujets à développer des désordres alimentaires parce que, bon, arrivé à l'âge adulte, normalement, la personnalité est un petit peu plus affirmée. Mais est-ce qu'on a observé des cas chez les adultes?
Ce qu'on a observé, en fait, ce qu'on voit dans les études, c'est que les adultes qui avaient déjà un trouble des conduites alimentaires, souvent, les mesures socio-sanitaires, le confinement, tout ça a eu pour effet d'accentuer la problématique qui était déjà présente. On voit aussi chez des adultes qui étaient en rémission, là, donc ça allait de mieux en mieux, que là, il y a eu que le trouble a réapparu ou s'est accentué. Puis ce que vous avez mentionné aussi, c'est que normalement, on les voit moins à l'âge adulte. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a trois principaux troubles des conduites alimentaires. Donc, il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. L'anorexie, c'est perdre beaucoup, beaucoup de poids en se restreignant. Et ça arrive principalement à l'adolescence ou au tout début de l'âge adulte. Là, les pics d'incidence sont à 14 et 17 ans. On a la boulimie, d'accord, qui ça, c'est faire beaucoup, beaucoup de restrictions alimentaires dans le but de perdre du poids, mais par moment, consommer beaucoup de nourriture dans un court laps de temps avec une impression de perte de contrôle. Et donc, on va souvent appeler ça des binges, là, qu'on va faire suivre ça de comportements compensatoires comme des vomissements. Donc, la boulimie survient surtout fin de l'adolescence, début de l'adulte. Et l'hyperphagie boulimique, ça, c'est juste faire des binges sans comportement compensatoire. Et ça survient surtout à l'âge adulte. Et c'est ça, donc, qu'on peut voir augmenter aussi là, chez nos adultes.
En terminant, Elisabeth Thibault, est-ce que, en 60 secondes, là, est-ce que, une fois sorti de la pandémie, ben, en fait, au moins, là, on se déconfine, les jeunes vont pouvoir sortir à l'extérieur, est-ce qu'on peut penser que ça se termine ou est-ce que, de toute façon, le mal est déjà fait, qu'il y a quand même des gens qui vont vivre des désordres alimentaires au cours des 12 prochains mois?
Mais en fait, j'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais ce qu'on peut penser, c'est que le plus gros des troubles alimentaires s'est accentué. La proportion s'est vraiment accentuée en lien avec les mesures de confinement. Donc, une fois que les mesures de confinement diminuent, que nos jeunes retrouvent leur vraie vie, mais effectivement, on peut penser que ceux qui n'avaient pas encore développé de troubles, même s'ils étaient à risque, ça va avoir pour effet de peut-être leur éviter de développer le trouble. C'est important que les parents soient vigilants, par contre, qu'ils favorisent dans la mesure du respect des mesures socio-sanitaires la socialisation de leur enfant, puis qu'au moindre doute, ils aillent consulter leur médecin s'ils sont préoccupés par la santé de leur enfant.
Et qu'on mange du céleri, ça va régler tous les problèmes.
Ah, mais moi, je dis toujours qu'une alimentation équilibrée, c'est manger du céleri, mais c'est aussi manger de la poutine.
Ah oh, oui, du céleri avec un verre de vin, c'est parfait, c'est l'équilibre total.
Exactement, c'est l'équilibre l'important dans l'alimentation.
Absolument. Merci infiniment, Isabelle Thibault.
Merci à vous.
Madame Isabelle Thibault est professeure adjointe au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Voilà qui complète cette édition du mardi 25 mai. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se reparle demain matin à compter de 7 heures. D'ici là, portez-vous bien.